Et bonsoir et bienvenue dans une causerie cosmique sur Radio Canu le 102.2 avec Georges ce soir parmi nous.
Bonsoir.
Et autour de la table, nous avons Fabien.
Salut.
Jean-Yves.
Et coucou.
Clara à la technique.
Bonsoir.
Et Jonathan qui a fait le lancement.
Et voilà. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver tout le temps, partout, notamment sur les blogs de Radio Canu.
Mais oui, ça se passe à blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Tout à fait. Et vous pouvez aussi nous écrire des choses très très sympathiques sur notre mail de Gmail.
Ou pas d'ailleurs, mais c'est à lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com, le tout en minuscule.
Et bien entendu, on est sur un réseau en bleu et blanc.
Voilà, avec un F.
Avec un F. Et ce soir, c'est Georges qui continue à nous parler des étoiles et du cosmos.
Mais absolument.
Eva, tu parles plus près de ton micro.
Et voilà. Et alors comme d'habitude, quand on commence une émission avec Georges, ben il fait un petit point.
Sur les saisons.
C'est ça.
Dans quelques jours, nous sommes en hiver. Ouais. Nous sommes au solstice d'hiver, le 21 décembre, c'est mercredi. Il fait de plus en plus froid, mais depuis la dernière fois, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est considérablement rapproché du soleil. Mais oui, on se rapproche du soleil et il fait de plus en plus froid. Comme je le dis à chaque fois, c'est une tradition maintenant, c'est donc pas ça l'origine des saisons, c'est bien l'axe de rotation de la Terre qui est incliné. Et actuellement, ben, c'est dans l'hémisphère sud qu'ils sont penchés vers le soleil, il fait chaud chez eux. Et nous, on est penchés à l'opposé du soleil, il fait plus froid chez nous.
Et donc c'est l'été au sud.
Et l'hiver chez nous. On va continuer à s'approcher du soleil jusqu'au mois de janvier, jusqu'à début janvier. Ensuite, nous nous en rééloignerons à nouveau.
Il y a eu un grand blanc.
Oui, il y a eu un grand blanc. Et est-ce que tu voulais ajouter autre chose sur les saisons? Parce que...
Non, j'ai rien de plus à dire sur les
non,
saisons.
Non, mais par contre, je crois que tu avais un coup de gueule à faire.
Oui,
et que ça,
plus,
c'est bon.
Un
vas-y, plus. Encore un.
Ah, je voulais vous parler, moi, de la superlune. Rappelez-vous, le mois dernier, l'affaire de la superlune.
Tous les médias nous ont vendu cette superlune. Non, mais c'est vrai, hein.
Oui.
Tous les médias, en fait.
Mmh, absolument.
Et donc,
oui.
C'était une...
Alors, c'est certainement parti du net, on ne sait pas. Mmh. Je voudrais dire, ou rappeler aujourd'hui, que bah, la Lune est sur une orbite stable autour de la Terre, une ellipse, comme toutes les orbites qui se respectent. Et tous les mois, la Lune s'approche de la Terre à cette distance, celle qu'elle avait le fameux 15 novembre. Et elle s'éloigne aussi de la Terre quand elle est à l'opposé de son orbite. Heureusement, cette orbite est stable. Donc, tous les mois, la Lune passe à 356 000 km de la Terre. Et également, 15 jours plus tard, à 420 000 km de la Terre.
Et en moyenne, on dit qu'elle est à 400 000.
Tout à fait. Voilà. Pourquoi aurait-elle été plus grosse brutalement le 15 novembre 2016? Qui sait?
On ne sait pas, un effet de loupe.
Alors, ce qui est certain, c'est que quand elle est près de l'horizon, hein, elle paraît plus grosse, mais c'est un simple effet d'optique. On a des points de repère, on a le paysage, on a les arbres, on a les immeubles. Mais si quelques heures plus tard, vous regardez la Lune quand elle est très haute dans le ciel, elle va vous paraître beaucoup plus petite. C'est pas en quelques heures qu'elle a changé de diamètre, hein, rassurez-vous. C'est vraiment notre cerveau qui est trompé, comme dans toutes les illusions d'optique.
Donc tout ça, c'était une belle arnaque journalistique.
Ah mais totalement, totalement, totalement.
Oui, ou journalistique qui a rattrapé un truc qui se passait sur le net, enfin, on ne sait plus trop dans quel ordre des fois se passent les événements et les buzz, comme on dit.
C'est ça.
Non mais c'était incroyable.
Est-ce que on continue notre découpe... Ah pardon, Fab.
Non, mais c'était pour dire après. Vas-y,
parle. Non, mais je voulais proposer qu'on... Ben, ton coup de gueule est passé. J'espère qu'on l'aura entendu. Ce soir, c'était justement, c'est reprendre, en fait... Enfin, c'est continuer la découverte des grandes et des grands...
Astronomes.
Oui, des gens qui ont découvert des choses pour l'astronomie. Et je voulais quand même rappeler, c'est que la première partie de cette émission, elle a eu lieu le 16 octobre. C'est bien ça.
Ouais.
Et que vous pouvez retrouver déjà le début de cette première partie sur les blogs de la causerie. Et donc ce soir, on continue.
On s'était quitté en 1642, avec la mort de Galilée, et la même année, pur hasard, hein, la naissance d'Isaac Newton. Isaac Newton, ben, très très vite, il s'avère extrêmement brillant, et dès l'âge de 19 ans, en 1661, il rentre à Cambridge, simplement. À 19 ans.
On va rappeler que c'est l'une des plus grandes universités anglaises et surtout l'une des plus grandes universités de sciences en Europe à l'époque.
Et on va passer donc directement à l'histoire de la pomme. Tout le monde a entendu parler de la pomme de Newton. En 1666, Newton est simplement, un soir où il fait très bon, assis sous un pommier, à rêvasser comme il le fait souvent. Et puis il voit tomber une pomme. La légende dit qu'il l'a pris sur la tête, il semble pas. En tout cas, il la voit tomber. Et machinalement, il lève les yeux vers le ciel, dans la direction d'où venait la pomme, et il voit la lune à travers les branches. Et il se pose la question fondamentale, c'est même incroyable que personne ne se la soit posée avant Newton, pourquoi la pomme tombe et pourquoi la lune, elle, ne tombe pas? Et Newton fait des calculs, et puis il comprend très vite que la Lune elle tombe pas parce qu'elle prend un grand virage autour de la Terre, donc elle subit une force centrifuge qui s'oppose à la gravité, à la gravitation. Les deux forces sont en équilibre. Newton a compris pourquoi les orbites sont stables. En 1666.
Ah, pour ceux qui voudraient une illustration de Newton prenant une pomme sur la tête, c'est l'occasion de rendre hommage à Gottlieb.
Absolument.
Grand dessinateur qui nous a quittés récemment. Et voilà, il dessinait souvent Newton avec une pomme sur la tête et les yeux exorbités. Voilà.
Rubrique à bras, hein, les dingues aussi.
C'était un petit hommage. et donc, du coup, alors, une fois qu'il a trouvé ça, il a tout publié, il était super content.
En fait, il range tout ça dans un coin, c'est tout Newton, ça. Puis il passe à autre chose. Il passe à plein d'autres choses, en fait. Voilà. Il touche à tout, les maths. Tout le monde connaît les analyses mathématiques de Newton.
Alors, je vais rassurer celles et ceux qui sont derrière le poste et qui ne les connaissent pas. Non, moi non plus, je ne les connais pas.
La physique, l'optique, la mécanique. Alors, pas la mécanique auto, à l'époque. Non, la mécanique dans le domaine de la physique. Et bien sûr, l'astronomie. Et Newton, on imagine que c'est un esprit extrêmement cartésien. Et bien, en fait, cette image est fausse, parce qu'il touche aussi à l'alchimie, par exemple, pendant une certaine période. Et puis, il a même fait des études théologiques, Newton. Et ouais.
Et ben, ouais, mais c'est comme quoi. Hein.
Et même de l'astrologie, tu as dit aussi.
Et même de l'astrologie.
Parce qu'on ne fait pas un potato, en fait.
Hein, bon, il faut bien gagner sa croûte. Bon. Alors, en 1669, il obtient une chaire de mathématiques à Cambridge. À son âge, il devient enseignant. À Cambridge. Entre-temps, il a découvert la diffraction de la lumière. Ça lui a permis d'expliquer ce qu'est l'arc-en-ciel et la nature de la lumière. La lumière blanche qui, quand on la sépare, est composée de différentes couleurs. Il a encore repris la physique en matière de mécanique, entre autres, la fameuse mécanique newtonienne. Et puis en 1672, il construit un instrument révolutionnaire, un instrument optique révolutionnaire, le télescope. Jusque-là, nous avions des lunettes depuis Galilée, hein, rappelez-vous. Nous avions des lunettes. Newton a l'idée, plutôt que de faire traverser la lumière à travers un objectif à l'entrée du tube, de fabriquer, de polir un miroir de forme parabolique, qui lui va concentrer les rayons lumineux comme le faisait l'objectif de la lunette, le premier télescope. Les télescopes de ce type sont encore utilisés de nos jours par les astronomes amateurs, le télescope de type Newton.
Donc en fait, il conçoit la lentille à ce moment-là.
Tout à fait. C'est un miroir au fond du tube qui concentre les rayons lumineux vers l'avant du tube. Ces rayons lumineux sont repris par un petit miroir à l'entrée du tube qui renvoie l'image sur le côté. Et on observe sur le côté, télescope type Newton.
Et je voulais préciser qu'on mettra justement une photo, parce que c'est ce que tu nous conseillais, c'était que justement c'était de mettre une photo de ce premier instrument-là qu'on devrait arriver à trouver. Comme ça, toutes et tous, vous pourrez voir à quoi
il ressemble. Il est en bois. Son miroir n'est pas en verre, pas encore. Il utilise un bloc de bronze qu'il a poli minutieusement.
Eh bien, il me regarde, Jean-Yves, il dit, on fait la pause musicale. Donc moi, je propose qu'on fasse une petite pause musicale, on revient après tranquille et on reprend là où on était avec Newton qui commence à regarder le ciel à travers un télescope et pas une lunette.
Mais d'ailleurs, c'était quoi qu'on a écouté
juste avant
l'émission.
Elle est forte. Hein. On a ouvert avec quoi, Georges ?
Avec Star Trek, Voyager.
Voilà.
Et là, on continue avec... On vous le dira après.
Eh oui, suspense.
Oh, quel suspense.
Thank you.
vous êtes bien dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu, sur radiocanu.org si vous nous écoutez de très loin de Lyon. Et ce soir, c'est une causerie astronomique avec Georges. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez des petites musiques planantes comme celle-ci avec Moby, Everything That Rises. Et voilà, c'était pas mal du tout.
C'est magnifique.
Ah, mais il a aimé. Hein. On continue du coup notre exploration. On en était à Newton qui venait d'inventer
le télescope.
Alors on va rappeler pour ceux qui n'étaient pas là avant la musique que le télescope c'est le fait d'avoir un miroir au fond
du tube,
voilà.
Que la lumière ne traverse pas, ne fait qu'être réfléchie par le miroir de forme parabolique. Cette lumière est concentrée vers l'avant du tube et reprise par un petit miroir qui renvoie l'image sur le côté.
C'est ouais. ça.
Et le là, télescope on est... de type Newton. Pardon.
Et là, non, c'est moi. Et là, nous sommes donc en 1672.
Mm-hmm. Voilà. Cette même année, Newton est élu membre de la Royal Society, institution anglaise de renommée mondiale. Et il y fait une rencontre cette année-là à la Royal Society. Il rencontre Edmond Halley. Edmond Halley en français.
Ouais.
Alors Halley, oui, son nom vous dit forcément quelque chose. Hein. Il est ingénieur, il est marin, il est océanologue, il est astronome. Halley s'intéresse aux comètes. Oh, surprise.
C'est pour ça qu'il y en a une qui porte son nom.
Halley s'intéresse aux comètes. Et il discute avec Newton des orbites des corps dans le système solaire. Newton ressort ses notes d'il y a 15 ans. Ça a dormi pendant 15 ans. Il se remet au travail pendant des semaines et il publie enfin La gravitation universelle en 1684.
C'est quand même dingue de se dire que s'il ne croise pas Halley, potentiellement il ne publiait jamais la gravitation universelle.
Ouais, c'est
fait.
Difficile à dire.
Ouais, mais... non, mais potentiellement, quoi. C'est vraiment des jeux de.
Ouais, surtout qu'il l'avait laissé
dans un coin.
En suspens. Ouais.
C'est ça. Ouais. Non, mais
ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est l'émulsion scientifique, ouais. Le fait de parler entre scientifiques, ou même de candidats quoi qui viennent et qui se tiennent, qui posent des questions, qui font que les gens publient, s'interrogent et tout. Voilà.
Tout
encore
fait.
Aujourd'hui, hein, d'ailleurs.
Oui, c'est assez fou d'imaginer que Newton avait mis ça de côté, était passé à plein d'autres choses. Mais alors vraiment plein d'autres choses, hein, comme on l'a vu. Et ce n'est qu'en 1684 qu'il publie sa fameuse gravitation universelle. Bon, c'est une série de notes assez épaisses. Hein. Il y a des centaines d'équations là-dedans. C'est pas juste l'équation principale que l'on connaît. Je vais pas la donner, mais elle s'énonce de cette façon. Un tout corps s'attire en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de leur distance. Plus les masses sont grosses, plus elles s'attirent. Et plus elles s'éloignent, moins elles s'attirent, et le carré de la distance, ça veut dire que si elles sont deux fois plus loin, les forces sont quatre fois moins importantes. Donc la gravité diminue très très vite avec la distance. Ça a l'air de rien, mais c'est une avancée mais colossale dans l'histoire des sciences. La gravitation universelle, elle est encore utilisée de nos jours. Alors Halley, lui, pendant ce temps, il continue à étudier les comètes, et notamment celle qui est passée deux ans auparavant, en 1682. Et grâce aux équations de Newton, il prédit son retour par le calcul, uniquement par le calcul. Il prédit son retour pour 1758, 76 ans plus tard. Elle sera bien au rendez-vous, cette comète, bien après la mort de Halley. Et désormais, elle portera son nom, la comète de Halley.
Je vais juste faire une précision pour les non-scientifiques qui nous écouteraient. Une prédiction en science, ça veut dire que vous avez démontré que ça peut arriver. Voilà, et que vous dites, normalement, dans tant d'années, selon les équations, voilà, c'est pas comme Madame Irma qui vous dit, normalement, tu vas mourir vers tel âge. C'est pas du tout ça.
Tu as bien raison de préciser.
Bah oui, c'est le même mot, mais par contre, c'est pas du tout la même chose qui est derrière. C'est-à-dire qu'on démontre, on fait des calculs ou une démonstration, et on dit, théoriquement, ça doit se arriver à telle date, voilà.
Là, donc il a même demandé à ses descendants de vérifier, parce qu'il n'était pas là pour le second passage. Là, hein. Oui.
Donc il ne prédit pas son retour, il calcule son retour.
Oui.
Il était bon de corriger. Cette comète, on est quand même pas mal, nous autres amateurs, à l'avoir observée à l'un de ses retours en 1986. Bon, il fallait quand même une paire de jumelles pour la voir, hein. C'était pas hyper spectaculaire. Dans un télescope, c'était sympa. Pour la voir revenir, il faudra attendre 2062.
Avec un peu de chance.
Ouais, on va pas vous mentir, on a fait un peu nos calculs pendant la prépa et bon.
Moi, je serais encore vivante.
Bon, bah les autres, on se prononce pas.
Et donc, ça veut dire que grâce à cette équation-là, on peut prédire des phénomènes célestes. C'est-à-dire qu'enfin, on peut comprendre en réalité, parce que prédire, on peut comprendre des phénomènes célestes. Et du coup, ça crée pas un petit choc avec tout ce qui relevait du religieux où tout était tracé carrément dans le marbre. Et alors que là, d'un seul coup, on peut expliquer les choses.
Carrément. On peut calculer n'importe quelle position de n'importe quelle planète, par exemple, à un certain moment. Avec Newton.
Et du coup, Dieu ne sert plus à grand-chose dans l'équation.
Donc cette période qui s'est ouverte avec Newton, on l'a vraiment appelée l'ère newtonienne. C'est une période qui aboutira au XVIIIe siècle, le siècle qu'on a appelé le siècle des Lumières.
Alors par contre il faut que tu parles dans ton micro genre, parce que sinon les gens t'entendent pas, je t'assure.
Est-ce que finalement cette ère newtonienne n'aura pas mis un petit coup à l'église et à ses croyances en apportant, on va dire, un regard
totalement
plus scientifique à la civilisation?
On aura une réelle séparation de la pensée chrétienne et puis de la pensée intellectuelle à partir de Newton,
la pensée religieuse et de la pensée
Non mais alors c'est intéressant parce que c'est de voir aussi que ça naît finalement en Angleterre, qui était le siège de l'Église anglicane, voilà, avec Thomas More aussi dans la même veine, enfin l'utopie tout ça. Voilà, donc c'est marrant de voir quand on se sépare l'Église et l'État, ça marche un peu mieux.
quand du moins, oui, que c'est pas venu c'est pas venu du ciel en fait, c'est venu des sciences, de la réflexion, des calculs, enfin c'est du matérialisme pur quoi.
Et alors moi j'ai une question, c'est que du coup à l'époque donc tu parlais des lumières, ça veut dire que les lumières vont s'emparer de ces connaissances-là et les diffuser.
Oui.
C'est-à-dire,
c'est l'émergence des encyclopédies, des chaires scientifiques. Hein. Rousseau, Voltaire lui-même va beaucoup diffuser la science et bien d'autres.
Donc Newton est traduit du coup dans plein de langues.
Absolument. Newton, lui, il meurt à l'âge de 85 ans, ce qui pour l'époque est quand même pas mal. Il a bien vécu. Et bon, on peut le dire, hein, c'est un des plus grands génies de l'histoire des sciences, Isaac Newton. Il meurt donc en 1727.
Et il y a des gens qui continuent à construire des télescopes, à s'intéresser à tout ça ou...
Oui,
il n'y avait que Newton qui avait envie de faire ça.
Au XVIIIe siècle, parlons de quelqu'un qui au départ est musicien, hein, qui est compositeur. Il est d'origine allemande, mais il est en Angleterre. Il s'appelle William Herschel. Et il s'intéresse de plus en plus à l'astronomie. Il est tombé par hasard sur un livre d'astronomie et ça a été une révélation. Alors il se procure un petit télescope, il n'est pas très content du résultat, il décide d'en construire un, plus puissant, plus performant. En fait, il en construira tout plein d'autres au cours de sa vie, William Herschel. C'est sans doute le premier astronome moderne, l'astronome amateur moderne.
Parce que, pour être clair, lui, il ne fait pas partie d'une... Comme tu disais, il était musicien, donc
absolument.
Il a aucun lien, entre guillemets, au départ avec une science, enfin, avec l'art, mais... avec une science mathématique ou
non,
physique,
il est purement, ou... il est purement chercheur, amateur, autodidacte. Absolument.
Et donc, est-ce que c'est lui qui essaye de construire le plus grand télescope possible à l'époque?
Oui, ben justement, il va en construire de plus en plus gros, avec des résultats plus ou moins réussis. Et c'est en 1778 qu'il achève son télescope le plus célèbre. Oh, il n'est pas énorme, hein. Il fait que 17 cm de diamètre. Il fait 2,30 m de focale quand même. Hein. Imaginez un tube de 2,30 m de long. Il installe ça dans son jardin. Et une nuit, en 1781, à force de pointer dans toutes les directions, il tombe sur un astre qui présente un petit disque, un petit diamètre. Tiens. Il croit d'abord à un disque stellaire. En fait, il n'imaginait pas que les étoiles étaient suffisamment loin pour qu'on ne puisse pas voir les disques d'étoiles. Mais cet astre se déplace lentement parmi les autres étoiles, ce n'est pas une étoile. Donc il pense naturellement à une comète, mais les contours sont bien trop nets. Oui. Il n'y a pas de queue, ce n'est pas une comète. En fait, William Herschel vient de découvrir la 7e planète du système solaire, qu'on a appelée plus tard Uranus. Alors, pourquoi Uranus ?
Mais c'était ma question ! Pardon !
Et pourquoi Uranus ?
Et pourquoi donc Uranus ?
Alors lui, Herschel, propose de la nommer Georgium Sidus, qui veut dire l'étoile de Georges. C'est en hommage à Georges III.
Hein. Ah, c'était pas toi ?
C'était pas toi.
Tu te la racontes, arrête !
Ou alors, il veut aussi la nommer Georgian Planet, la planète de Georges, toujours Georges III. Bon, ça n'a pas beaucoup de succès, hein, malheureusement.
Tant mieux.
Mon prénom n'a pas beaucoup de succès.
Mon pauvre.
Alors, il est alors proposé Neptune Georges III. Neptune, vous vous rendez compte, Neptune, déjà. Et ça n'a pas non plus beaucoup de succès. Finalement, on opte pour Uranus, qui est le nom latin du grec du ciel Uranos. Uranos. C'était un dieu grec, le dieu du ciel, et puis Uranus, c'est son nom latin.
Et alors j'ai une question comme ça, mais tu disais, ouais, on a aussi évoqué Neptune, etc. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on arrête un nom pour une planète ou pas ? Enfin,
Ça dépend des époques, ça dépend des planètes. Ça a toujours été très compliqué de nommer les planètes.
D'accord.
En général, c'est des discussions à n'en plus finir. Ça prend souvent des années à l'époque.
Ok,
c'est d'accord. Pour ça que maintenant, il a remis des codes.
Voilà. Donc, oui, alors on va juste préciser que tu disais déjà Neptune, c'est parce qu'on n'a pas encore découvert Neptune, hein, c'est à ce moment-là. Donc, parce que les gens comprennent et qu'on suit.
Oui,
parce que nous, on a fait la prépa, mais pas tout le monde.
Nom reviendra, bien sûr. Ouais.
Alors, moi, j'ai une question, c'est que donc, tu disais qu'il a trouvé ça en pointant un peu par. Donc, c'est un pur hasard.
C'est un pur hasard.
C'est-à-dire qu'il pointe son télescope et il tombe sur cet objet.
C'est un pur hasard, oui et non, parce qu'il passait tellement de temps à regarder le ciel et à pointer son télescope absolument de partout qu'à un moment ou à un autre, j'étais presque sûr qu'il allait tomber dessus. Pourtant, c'est pas facile, hein, parce que tous les amateurs qui ont essayé de pointer Uranus se sont rendus compte qu'elle est quand même pas facile à pointer. Elle n'est pas visible à l'œil nu, elle est perdue dans un champ d'étoiles. Et on utilise des chercheurs qui sont des petites lunettes qui sont en parallèle au télescope. Et dans le chercheur, Neptune, ça ressemble à une étoile. Il n'y a absolument pas de disque, pas de diamètre. Il est difficile de la repérer parmi les étoiles du champ visuel. Donc, chapeau quand même, William Herschel.
Et c'est la seule découverte qu'il va faire ou... Parce que tu nous disais d'ailleurs, un peu, on va le dire là, à l'antenne, qu'il s'était marié avec une riche héritière pour pouvoir continuer à faire que de regarder le ciel. C'est quand même pas terrible, mais bon. Donc, il avait trouvé quelqu'un pour financer ses recherches. Et du coup, il a découvert d'autres choses.
Oui, en 1792. Oui. Alors, Herschel multiplie des découvertes, effectivement. Il a notamment découvert l'apex. Alors qu'est-ce que c'est l'apex ? L'apex, c'est la direction vers laquelle se dirige le Soleil. Le Soleil fait un tour complet dans la galaxie en 250 millions d'années. Et il se déplace assez vite, hein, plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Et William Herschel a découvert dans quelle direction s'en allait le Soleil. C'est du côté de la constellation d'Hercule, pour ceux qui connaissent un petit peu le ciel. L'apex du Soleil. Il découvre deux satellites à sa planète Uranus, hein, Oberon et Titania. Il découvre même les calottes polaires de Mars. Donc il en conclut que Mars possède une atmosphère. Et puis il découvre également plusieurs satellites de Saturne qui n'étaient pas encore connus. Il découvre d'innombrables étoiles doubles, des nébuleuses, des amas. Il ne s'arrête plus. Oui, en 1792, je disais, la naissance de son fils, John, qui sera lui-même astronome. Et ce qui est comique, c'est que son petit-fils sera lui-même astronome également.
Ça se transmet.
Ça se transmet.
Alors que lui, à la base, n'est pas du tout astronome.
Non, là, il a complètement arrêté la musique.
Eh bien, en parlant de musique...
Est-ce qu'on ferait pas une petite pause,
on revient après. Allez,
c'est parti. Thank you.
c'était beau tout ça. Et vous êtes toujours dans la causerie sur Radio Canyon 102.2, sur Lyon et sur radiocanyon.org, partout ailleurs. On vient de s'écouter Jean-Michel Jarre avec Oxygène du jour. Non, Oxygène 18. Voilà, Stéphane, ma blague. Elle était nulle. Wow. Pardon, c'est complètement nul. Alors, on est toujours en compagnie de Georges. On continue toujours notre découverte des personnalités importantes du milieu de l'astronomie. Et avant, on parlait de...
Télescope.
Merci. On va y arriver à 3. On pose la question à 3, allez.
Merci.
Non, tu disais justement qu'on ne voyait pas Uranus à l'œil...
Oui. Oui, j'avais oublié de préciser. Uranus n'est pas visible à l'œil nu. C'est la raison pour laquelle elle n'était pas connue des anciens. Les anciens connaissaient les planètes jusqu'à Saturne, qui est la dernière planète visible à l'œil nu. Alors Uranus, pour donner une idée de sa luminosité, ça s'apparente en gros à une bougie vue à 2,5 à 3 km. C'est hors de portée de l'œil. Enfin, c'est extrêmement limite en tout cas. Pour les bonnes vues dans le noir absolu,
oui, c'est ça,
peut-être.
Faut qu'il n'y ait vraiment rien du tout qui...
Donc pour la voir à l'œil nu dans le ciel parmi des étoiles beaucoup plus brillantes, bonjour. Oui Herschel, on disait tout à l'heure qu'on suit des instruments de plus en plus gros, donc de plus en plus performants. Ils deviennent rapidement même gigantesques. Il faut des vrais échafaudages avec des cordes, des poulies... des échelles partout, pour arriver à observer avec. Et notamment, il construit un télescope de 48 cm de diamètre. C'est certainement son meilleur télescope qu'il ait construit. Ça correspond à peu près à ce que les amateurs bien équipés ont de nos jours. Moi, j'ai un télescope de 40 cm. Lui, donc, on s'en est construit un de 48 cm. Il est légèrement plus puissant, plus performant. La performance d'un tel instrument, c'est une bougie, mais à 100 km. Dans l'oculaire de l'instrument, du télescope.
Pour essayer de visualiser, parce que je me dis que c'est... Simplement, ça va concentrer la lumière, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, du coup, quand nous, on voit rien, vous avez l'impression que c'est la nuit noire. Nous, on a déjà vécu l'expérience avec toi, Georges. Tu pointes ton télescope sur un endroit complètement noir du ciel. Tu nous dis « Regarde !» Et là, on découvre des milliards d'étoiles. Voilà, et c'est juste surprenant, mais c'est ça, ça concentre la luminosité.
Oui, ça collecte la lumière sur toute la surface du miroir. Ça la concentre vers un seul point. Donc plus le miroir est gros, plus son diamètre est important et plus il a la capacité de collecter de la lumière et donc de regarder des choses de plus en plus faibles.
Et notre William Herschel, alors est-ce que c'est moi qui me suis trompé dans mes notes ou est-ce qu'il n'aurait pas découvert un truc aussi qu'on appelle la Voie lactée ?
Alors William Herschel... Justement, oui.
Par contre, Georges est perdu dans ses notes. Donc, on va combler un petit peu le temps qu'il retrouve. Il a perdu.
Alors, Herschel.
Je crois que ça se passait autour de 1806, un truc comme ça, je pense.
Bah, tu as pris des notes.
Attends, j'essaie de suivre quand même. J'y arrive pas toujours, mais j'essaye.
D'accord. Alors, il a pour ambition, en fait, à l'aube du 19e siècle, de tout simplement dénombrer toutes les étoiles qui existent. Rien que ça.
Ça va.
William Herschel. Bon, c'est si peu. Alors, oui, c'est vrai, William Herschel est sans doute, je le précise aujourd'hui, là, l'astronome qui a le plus regardé le ciel de tous les temps, y compris de nos jours. Il a passé un temps incroyable à observer le ciel au cours de toutes ces années. Il annonce en 1806 donc, que les étoiles sont rassemblées dans un immense disque, d'où la Voie lactée qu'on voit le soir, l'été, dans le ciel. Et il essaye d'en déterminer les dimensions. Donc il annonce d'abord 4000 années-lumière, mais 4000 années-lumière, il est encore loin de la vérité. Puis 20 000 années-lumière, c'est déjà plus proche. En réalité, la Voie lactée, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre, nous le savons aujourd'hui. Et William Herschel est donc le premier cosmologue de l'histoire. Cosmologue, je précise, c'est celui qui essaie de donner une forme à l'univers à grande échelle.
Okay. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir qu'au début du 19e siècle, il se trompe que de 5 fois. Alors, les gens vont dire, ah, 5 fois, c'est énorme. Mais à l'échelle de l'univers, c'est que dalle, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir...
On est déjà dans le même ordre de grandeur. Ouais. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il aura...
Il est dans le bon ordre de grandeur, absolument. Ouais.
Sur la taille de la Voie lactée, quoi. C'est juste... c'est dur à imaginer, quoi. Mais...
Et en France ?
Bah oui, il se passe des trucs en France.
En parallèle à William Herschel. En France, on a un astronome français, Charles Messier, qui étudie les comètes, comme elle est, vous vous souvenez. Il découvrira d'ailleurs une vingtaine de comètes, Messier. Et pour ne pas les confondre avec les objets diffus du ciel, hein, les petites nébuleuses, les petits amas d'étoiles, etc., il décide de dresser un catalogue de ces objets diffus. 110 objets. Et c'est pourquoi, de nos jours, vous entendez des astronomes amateurs, tiens, si on pointait M42 pour Messier 42, c'est un des objets du catalogue de Messier au 19e siècle.
D'accord.
Et donc ça veut dire que ce qu'il a établi sert toujours aujourd'hui.
Absolument.
Et est toujours observé aujourd'hui.
Absolument. Il faut aussi citer Pierre-Simon Laplace. Lui, il apportera des avancées fondamentales en matière de mathématiques et d'astronomie, notamment en matière de probabilité. Pierre-Simon de Laplace. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui.
Pas particulièrement, pardon, mais...
Tu as fait un petit bond sur ta chaise, oui. D'où le bruit pour les auditeurs et auditeurs.
C'était pour regagner la place. Non, mais c'est... Du coup, qui est un petit peu Laplace ?
Bah, c'est un mathématicien avant tout, mais qui a mis les mathématiques au service de l'astronomie.
En fait, c'est un de ceux qui a inventé ce qu'on a appelé les équations de probabilité, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des choses qui reviennent à des probabilités certaines, comme on dit, voilà, et ça permet de faciliter les calculs, pour faire simple. Hein.
Voilà. Eh ben, tant mieux.
Non, mais voilà, on va pas faire un cours de maths, mais voilà.
Je passe à un autre astronome français, hein, au 19e siècle, qui s'appelle Alexis Bouvard. On a aussi affaire à de grosses têtes, hein, mais ce n'est pas Philippe.
Oh là là.
On l'attendait, celle-là.
Oh merde.
Alexis Bouvard, il va découvrir quelque chose de fondamental quand même. Il va découvrir que l'orbite d'Uranus subit des perturbations. Mm-hmm. Et il y a deux scientifiques donc, qui se mettent au travail pour essayer de comprendre pourquoi. En parallèle, hein, un Anglais, John Cook Adams, oui, et le Français Urbain Le Verrier. Et ils arrivent au même résultat quelques années plus tard. Mais Le Verrier, lui, il est le premier à l'annoncer. Il était plus rapide. Et le résultat, c'est que c'est dû à la présence d'une huitième planète dans le système solaire, au-delà d'Uranus. Alors, un télescope est pointé dans cette direction, à l'observatoire de Berlin, en 1846. Et on trouve Uranus, effectivement, on trouve Neptune, à l'endroit exact où Le Verrier avait calculé qu'elle serait... ce jour-là.
Et donc, c'est la découverte de Neptune. Et finalement, pour relier tout ça, c'est grâce à Newton que l'on sait pourquoi il y a des perturbations, parce que c'est la masse des deux planètes qui vont se perturber, et on va pouvoir déterminer grâce à Laplace où se trouve Neptune.
C'est encore une fois la gravitation universelle.
Voilà.
Et ce cher Newton.
C'est beau quand même.
Oui, et que surtout, oui, c'est ça, c'est que c'est toujours une forme d'échange des savoirs, en fait. Ouais. C'est que ça enrichit, etc. Enfin, la recherche, c'est quand même foncièrement ça, quand même. C'est-à-dire que c'est les découvertes, plus les découvertes des autres, les recherches, qui s'additionnent et qui permettent d'avancer, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très coopératif, en fait, je trouve, dans tout ça, quoi.
Tout à fait. Alors, avec ce succès, Le Verrier, lui, il est nommé directeur de l'Observatoire de Paris en 1854. Il travaille avec Camille Flammarion, qui est un vulgarisateur. Hein, mais Le Verrier a un caractère de cochon. Il n'arrive à s'entendre avec personne. Et très rapidement, Flammarion claque la porte. Voilà le caractère de Le Verrier. Le Verrier découvre aussi que Mercure a des perturbations sur son orbite. Est-ce qu'il y aurait une planète qu'on n'aurait pas vue plus proche du Soleil que Mercure ? Il ne le trouvera pas.
On va rappeler que Mercure, c'est la première planète après le Soleil.
Il ne trouvera pas. Et pour cause, il faudra des années pour comprendre pourquoi Mercure est perturbé. C'est un effet relativiste. C'est Einstein qui l'expliquera.
On y viendra après. Moi, j'ai une question quand même sur... tu dis qu'il y avait donc à l'époque un observatoire de Paris, un observatoire... Donc c'est quand même que l'astronomie est une science à l'époque qui est reconnue, enfin qui est bien mise en avant quand même.
Ah mais tout à fait. Voilà.
Ce qui est peut-être moins le cas aujourd'hui, malheureusement.
Les observatoires se développent un peu partout hein, en Europe. Absolument.
Tu veux faire une petite pause?
Un petit peu de musique.
Allez. Oui, parce qu'il a besoin, de boire un coup.
Allez, la
musique, s'il vous plaît.
C'était Max Lilia avec le titre Machinery.
Et on est dans quelle émission?
Je ne sais pas. Je suis venue par hasard.
Avec la lumière. Et ben oui, c'est donc la causerie cosmique avec Georges, comme un dimanche par trimestre. Voilà. Et donc, alors, juste avant la pause musicale, on se disait, on était au 19e siècle. Et au 19e siècle vont réapparaître. Alors, pas directement, mais vont réapparaître les femmes dans l'astronomie.
Dans l'astronomie. Quelle équipe, quand même. Oui, on est aux États-Unis, à l'observatoire de Harvard, à la fin du 19e siècle. Son directeur s'appelle Edward Pickering, et il emploie des femmes pour les nombreux calculs qui sont plus ou moins boudés par les hommes. Vous voyez un peu.
Là, c'était une tâche ingrate, en fait, faire
absolument.
Les calculs.
D'accord, ok.
C'était ça en fait. Hein.
Et il emploie notamment sa gouvernante. Il s'appelle Williamina Fleming. Joli nom. Williamina Fleming. Et elle s'avère si douée qu'il lui confie de plus en plus de tâches scientifiques, un peu moins ingrates. En quelques années, elle analyse près de 28 000 spectres d'étoiles. Vous vous rendez compte? Elle découvre 300 étoiles variables, 59 nébuleuses et 10 novas. Les novas, ce sont ces étoiles qui sont un peu pulsantes. Hein. Elles n'explosent pas vraiment, mais elles deviennent brutalement des milliers de fois plus lumineuses. Et puis elles reviennent à un stade plus stable. Au début du XXe siècle, elle rentre sans diplôme à la Royal Astronomy Society. Wilhelmina Fleming.
Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle est, entre guillemets, obligée de venir en Angleterre pour être reconnue, parce qu'elle n'aurait pas pu l'être aux États-Unis a priori.
Oui, oui, tout à fait. Elle est la première américaine, d'ailleurs, à rentrer dans cette institution réputée, renommée.
Et donc depuis, comment elle s'appelait, celle qui avait été lapidée, je m'en rappelle
plus. C'était 1500 ans auparavant.
Ouais, c'est ça.
Il a fallu attendre 1500 ans, elle s'appelait Hypatie.
Elle n'est jamais revenue.
Donc, en 1000...
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, de la refaire.
Oui. On a une émission à finir. Quand
oui,
même.
Pardon. Allez, je m'arrête.
Non, mais donc, du coup, tu veux dire, Georges, que, enfin, quoi, il faut souligner que pendant 1500 ans, on a invisibilisé les femmes totalement dans l'astronomie.
Oui, ça veut pas dire qu'elles n'ont rien fait. Hein. J'insiste encore une fois là-dessus. On s'est même parfois carrément approprié leur découverte.
Mais du coup, voilà, on les a effacés de l'histoire. Ah, quoi.
Totalement, totalement.
Ah, c'est grave hein, quand même.
Oui, oui, on est bien d'accord. On arrive au début du XXe siècle, là. On y est, on est presque à notre époque.
Il y a un gars qui tire la langue, donc.
Et le début du XXe siècle, ben, c'est la relativité restreinte avec Albert Einstein, hein, 1905. Einstein donc, a une vision totalement différente de la physique et des rapports entre l'espace et le temps. En 1905. Vient très rapidement aussi la construction d'énormes télescopes dans les observatoires, de plus en plus gros, et notamment la mise en service d'un instrument qui va s'avérer très important, un instrument de 2,50 m de diamètre au mont Wilson en Californie. Le miroir qui est en verre hein, pèse tout seul 4 tonnes, le miroir de cet instrument.
Un sacré poids, quoi. Pour un...
Toute la structure des centaines de tonnes. Mmh. Wow. C'est gigantesque. Bon, c'est un géant qui sera le plus gros télescope au monde jusqu'en 1949, quand même. Alors, avec ce télescope, Edwin Hubble, en 1923, Hubble, hein, l'astronome par le télescope.
Celui qui donnera le nom après.
Mais... Oui, tout à fait, oui. Découvre une céphéide dans la nébuleuse d'Andromède. Alors, c'est une histoire que j'ai déjà racontée. Les céphéides, ce sont des étoiles variables qui permettent de jauger l'univers en distance. Hein, leur période est en fonction de leur luminosité réelle, et avec leur luminosité apparente, on peut en déduire leur distance. Donc une céphéide dans la nébuleuse d'Andromède, on va pouvoir mesurer la distance de la nébuleuse d'Andromède. Alors, on voit Hubble qui fait ses calculs, etc. On voit du monde derrière lui, et puis le résultat en bas de la page hein, tombe. Et Andromède, en fait, est à 2 millions d'années-lumière de nous. C'est bien au-delà de notre galaxie. Hubble vient de découvrir que ces nébuleuses spirales sont d'autres galaxies, comme la nôtre en réalité, et de plus en plus loin. Mais revenons au télescope de 2,50 m. En 1929, Hubble a un assistant, qui était un ancien concierge de l'observatoire, Milton Amison. Et en étudiant les spectres de ces galaxies, il découvre qu'elles s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'elles sont plus éloignées. Hubble vient de découvrir l'expansion de l'univers. Et il est vrai que le télescope spatial de notre époque porte son nom en hommage à cette découverte.
En fait, pour expliquer peut-être plus précisément, c'est que plus une galaxie est loin, plus elle va vite. De notre point de vue, mais c'est parce que l'univers s'étend très vite. Voilà. Je sais pas si c'est plus clair, parce que je voyais Jean-Yves qui faisait des yeux bizarres là-bas.
Je fais toujours des yeux bizarres, hein, encore plus quand on parle d'astro, mais ça veut pas dire que ça m'intéresse pas.
Non, je croyais que t'avais pas percuté la phrase, c'est pour ça que je parle.
Non, mais il y a deux causeries astronomiques où on expliquait ce phénomène d'expansion de l'univers et du fait que ça aille plus vite.
Je vous invite à les réécouter.
Tout à fait, en podcast sur les blogs de la causerie.
Alors, à la fin de sa vie, Hubble a même l'occasion d'utiliser un télescope géant qui vient d'être mis en service au Mont Palomar, toujours aux États-Unis. Un télescope dont le miroir fait 5 mètres de diamètre. Donc, il est en surface 4 fois plus puissant que le 2,50 m du Mont Wilson. C'est un instrument géant qui est mis en service, qui sera le plus grand au monde jusqu'en 1975 quand même, hein. Pratiquement jusqu'à nos jours.
Et c'est avec ces instruments-là aussi qu'on va tomber sur Pluton ou c'est
Non, non, non. Alors Pluton, c'est un astronome amateur qui a découvert Pluton. Là, c'était en 1930.
Et il a découvert par hasard, lui aussi.
Tout à fait par hasard, également. En fait, il prenait des photos du fond du ciel et il a découvert qu'un des points lumineux s'était déplacé d'une photo à l'autre au fil des semaines. Il a ainsi découvert la 9e planète du système solaire, qui, vous le savez, n'est plus aujourd'hui considérée comme une planète, mais comme une planète naine. Elle a été déclassée par l'Union Astronomique Internationale en 2006. Donc aujourd'hui, le système solaire ne possossède à nouveau que 8 planètes. Neptune étant la dernière.
On va rappeler une chose que tu avais déjà dit, c'est qu'on peut découvrir peut-être potentiellement des nouvelles planètes dans les années qui viennent.
Oui, 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 parce qu'on a dans la ceinture de Kuiper, hein, je rappelle ce qu'est la ceinture de Kuiper, c'est une zone éloignée du système solaire où gravitent tout un tas de choses, dont les comètes, et notamment des planètes naines. Et certaines de ces planètes voient leur orbite perturbée par quelque chose qu'on n'a pas encore découvert. D'où l'idée de la 9e planète.
Qui serait après la ceinture.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
Il est encore perdu dans ses notes. Comblons le temps.
Alors, de nos jours, eh bien, les télescopes géants se sont multipliés, ils sont de plus en plus performants. Depuis bien longtemps, on ne met plus l'œil, hein, l'oculaire de ces télescopes. On y branche tout un tas d'appareillages compliqués, des spectroscopes, des caméras électroniques, des tas de choses. Oui, les astronomes de nos jours ne regardent plus dans le télescope. Ils se contentent de graphiques, de schémas, de diagrammes.
Et une question, c'est quoi la taille du plus grand télescope en fait? Je ne sais pas si tu l'as en fait. Mais
Oui, oui, oui. Il y a un télescope multimiroir qui fait 10 mètres de diamètre.
Ah oui, quand même.
Au Chili. Il y a un observatoire français aussi au Chili qui possède 4 télescopes de 8 mètres de diamètre et qui peuvent fonctionner couplés pour augmenter la puissance.
Wow.
Le VLT, le Very Large Telescope. 8 mètres.
Et se sont ajoutés à ça des radiotélescopes, d'autres formes de télescopes qui sont...
Qu'est-ce que ça peut donner un télescope de 8 mètres? On était avec la flamme de notre bougie tout à l'heure.
Ouais.
En captation photo-électronique, hein, ce télescope est capable de voir une bougie sur la Lune à 400 000 km de distance.
C'est énorme.
Et oui.
Ouais. Eh bien...
Aujourd'hui donc, aujourd'hui en France on a 700 astrophysiciens et astrophysiciennes, il y a à peu près 22% de femmes dans le métier. C'est un cursus d'études assez long, 8 ans d'études, hein. Il faut avoir un doctorat d'astrophysique. Ensuite il faut obtenir des postes dans les différents observatoires, des postes de chercheurs, pas évident. Je voudrais d'ailleurs un petit clin d'œil à un ami, à un copain qui s'appelle Jean-François Gonzalez, qui a commencé comme astronome amateur chez nous, alors qu'il était tout jeune, et puis qui a suivi ce cursus. Depuis 20 ans, il est astrophysicien et il travaille au Centre de recherche astrophysique de Lyon. Et avec son équipe, ils ont fait une avancée monumentale dans la compréhension de la formation du système solaire, notamment de ces protopoussières, de ces poussières qui ont formé les planètes. Il y avait des manques, hein, dans l'explication, ça ne pouvait pas fonctionner. Et son équipe, lui et son équipe, ont enfin compris comment s'est formé le système solaire.
Alors, je voulais juste me permettre, mais si tu disais, il a commencé chez nous. Chez nous, chez toi en fait ou...
Dans son jardin.
Oui, oui, c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil aussi au club d'astronomie de Chaponnet. Ouais. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez venir nous voir tous les mercredis soirs à 20h30. Et si c'est... le temps le permet, ben nous...
C'est là où a commencé Jeff.
C'est là où a commencé Jeff.
Et où on est à la maison. Commenceront d'autres Jeff.
Exactement.
On est à la maison des associations à Chaponnet. Et le mercredi soir à 20h30.
Et puis c'est ce que tu disais aussi là, c'est que beaucoup des astronomes qui ont marqué l'histoire sont des amateurs, davantage que des scientifiques. Donc
ils sont scientifiques, mais pas professionnels.
Oui, voilà.
Oui. Ben oui, les amateurs ont ceci pour eux, qui sont très nombreux et qui regardent dans toutes les directions, alors que les professionnels ont souvent des programmes de recherche qui sont très ciblés et qui ils passent à côté de pas mal de choses.
Et du coup, il y a combien de clubs amateurs en France ?
Il y a en France 500 clubs amateurs. 500 clubs amateurs et à peu près 27 000 astronomes amateurs dans ces 500 clubs.
Ce qui n'est pas si énorme que ça, en fait, quand même. Enfin, le sport, ça ramène toujours plus de gens, quoi, que là. Non, mais je veux dire, alors que vraiment, enfin, j'invite tous les auditeurs et auditrices, si vous avez l'occasion un jour de pouvoir faire de l'observation, mais vraiment, allez-y, quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment génial.
Ouais, avec plaisir.
Et puis on espère donner des vocations, enfin donner l'envie, enfin avec ces émissions de pointer le regard vers le ciel un peu différemment de ce qu'on fait généralement.
Tout à fait. N'hésitez pas à venir nous voir.
Est-ce qu'on a quelques brèves à annoncer ?
Non, mais par contre, est-ce que tu as terminé, Georges ?
Pas tout à fait.
Excuse-moi.
Oui, j'aimerais quand même annoncer ce qu'on voit dans le ciel actuellement. Là. Oui. Donc... Notamment une chose. Hein. Vous avez vu ce point extrêmement brillant qu'il y a sur l'horizon sud-ouest le soir ? C'est la planète Vénus. Profitez du spectacle, regardez-la. Dès la tombée de la nuit, elle brille de mille feux dans le ciel, au-dessus du sud-ouest. Voilà, la planète Vénus.
Donc, pour trouver le sud-ouest, débrouillez-vous, baissez au sud-ouest.
C'est en gros là où s'est couché le soleil une heure auparavant.
Je savais qu'il allait donner une astuce.
Soit avec une boussole, soit regarder vers Vénitieux. Non, sud-ouest, vers... derrière le 5e arrondissement, Oulin et tout ça. La Mulatière, voilà.
Quand on est dans Lyon.
Quand on est dans Lyon.
Sinon, si tu nous écoutes à l'autre bout du monde, ça ne marche pas.
Là, sinon, c'est l'ouest, c'est le sud-ouest, c'est comme ça.
Moi, je vais. Merci, Georges, en tout cas. Et il y a d'autres choses à signaler dans le ciel ou c'était juste Vénus que tu voulais.
Mars à proximité, elle est un peu plus difficile à repérer. Hein. On la voit quand même à l'œil nu, nettement moins brillante que Vénus. Vénus qui est l'astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune.
Ben moi, je vais vous inviter à aller à Chaponnet les mercredis à 20h30 à la Maison des Associations pour en voir plus, parce qu'avec un télescope, comme vous l'aurez compris dans cette émission, on en voit beaucoup plus qu'à l'œil nu. Donc ça vaut le coup de se déplacer. Merci Georges, en tout cas, pour cette émission.
Merci. Il n'y a pas de quoi.
Rendez-vous en 2017 pour une nouvelle...
Causerie astronomie.
C'est ça.
Juste rappeler que on peut retrouver l'ensemble des émissions astro de Georges astronomique de Georges sur le blog de l'émission. Il a une page à lui tout seul.
Ah oui, monsieur a son onglet quoi. Bravo.
Ça va pas mal. Ça me plaît bien.
Mais ça a facilité pour les gens justement qui auraient envie de revivre ce, parce que c'est un vrai voyage qu'on fait maintenant depuis 8 émissions presque, je crois, 6 ou 7 en tout cas. Et c'est vraiment reprendre du début. Vous pouvez, si vous n'avez pas suivi les premières, allez-y, vous repartirez en voyage. Et puis on continuera ce voyage en 2017 ensemble, ça va être vraiment bien. Quoi.
Avec plaisir.
Eh bien merci, on vous donne rendez-vous pour la causerie. Eh bien la semaine prochaine quand même.
Ouais.
Hein, ce ne sera pas une grosse causerie, mais certaines seront là pour... pour celles et ceux qui ne seront pas à table avec la famille ou autre, on continue. Voilà.
Et puis c'est une causerie un peu de Noël.
Oui, bien sûr, ça va être super, on va manger de la bûche.
Mais ils ne sont pas possibles.
On avait pas prévu. Est-ce que manger de la bûche, ça donne la langue de bois ? C'est ça la vraie question.
Oh wow. Non, mais là, t'as élevé le mien. Je viens pas la semaine prochaine, moi. Et d'ailleurs, Jonathan... On se quitte avec quoi ?
Mais avec un tube, j'ai envie de dire une hymne, un véritable chef-d'œuvre de la musique électronique, composé par Robert Miles. Il me semble que c'était en 92.
Oui,
Et voilà, c'est Just For You Tonight with the Stars. Robert Miles, Children.
Ah bah voilà.
Wow.
Merci Clara pour la technique.
Et rendez-vous la semaine prochaine.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Rendez-vous la semaine prochaine et bon courage.
Et bonne semaine.
Yes, bonne nuit, bisous.
Ciao.